Les terrasses du ciel. Les grands classiques de la poésie chinoise avec les éditions Mundaren. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les terrasses du ciel. Aujourd'hui, nous allons aborder l'œuvre de Yang Wanli avec des poèmes extraits du livre paru chez Mundaren, Le son de la pluie, des poèmes traduits du chinois par Cheng Wingfun et Hervé Collet avec une calligraphie de Cheng Wingfun. Alors, Yang Wanli est moins connu que Li Po, par exemple, ou que Wang Wei, ou que Po Kui. Néanmoins, vous allez pouvoir constater que ses poèmes sont d'une qualité tout à fait extraordinaire, une sorte de vertu apaisante qui, moi, m'ont fait grand bien, comme le son de la pluie, d'ailleurs. Alors, Yang Wanli est né en 1127 à Shisui, c'est dans le Jiangxi, c'est-à-dire à l'ouest du fleuve. Il est né dans une famille humble et cette année-là, l'année de sa naissance, les barbares Yurchen, qui viennent de Mandchourie, envahissent le nord de la Chine. Ils y établissent la fameuse dynastie étrangère Qin qui contraint la dynastie régnante des Song à quitter la capitale impériale Kaifeng et à fuir au sud du long fleuve. La boucle du fleuve jaune, berceau de la civilisation chinoise, est désormais sous le joug barbare. Hangzhou, la cité élégante et magique au bord du lac de l'Ouest, devient la nouvelle capitale impériale des Song du Sud. Voici pour le contexte géographique et historique qui entoure l'œuvre de Yang Wanli, lequel en 1154 fête ses 28 ans et il est reçu cette année-là au concours de Qinqi, ça veut dire lettré finalement, lettré sélectionné, ce qui lui permet de commencer une carrière officielle de mandarin. Il est d'ailleurs nommé dans la foulée administrateur des finances publiques à Kangshou, dans le Jiangxi. Et un an plus tard, il est nommé préfet de Lingling dans le Hunan, le sud du lac. C'est alors qu'il rencontre un grand homme d'État, Changchun, qui était exilé à Lingling pour des positions jugées trop offensives à l'égard des barbares Qin dont j'ai parlé tout à l'heure et qui étaient installés quant à eux dans le nord de la Chine. Changchun donnera un conseil à Yang Wanli, un conseil qui marquera profondément l'esprit du poète, cultive l'impartialité et la sincérité. Ce qui fait que Yang Wanli prendra d'ailleurs plus tard pour surnom Cheng Chai, ce qui signifie le studio de la sincérité. En 1163, l'empereur Xia Zong monte sur le trône et il rappelle le maître Changchun à la cour comme ministre, lequel Changchun recommande alors Yang Wanli. Celui-ci est nommé directement professeur à Hangzhou, mais il est à peine arrivé à la capitale pour prendre ses fonctions qu'il apprend la mort de son père. Le voilà obligé de rentrer dans son village natal, Chichui, pour observer 3 années de deuil. C'était la tradition à l'époque en Chine. Au bout de 3 ans, Yang Wanli est nommé à Fengxing, dans le Jiangxi. En 1170, il soumet à l'empereur un mémorandum intitulé « 1000 considérations » où il insiste notamment sur la nécessité de renforcer la défense sur la frontière Huai, frontière entre les Qin au nord et les Song au sud, pour ne plus avoir à subir l'humiliation qui consistait à l'époque à verser une rançon pour acheter la paix. Alors, le premier ministre Cheng Chung-Ching et le ministre des Affaires militaires Yu Yun-Wen sont très impressionnés par ce document et ils font nommer Yang Wanli professeur au département de l'éducation à Hangzhou et 3 ans plus tard, en 1174, Yang Wanli est envoyé à Changzhou dans le Fujian, mais notre ami est pas très content de cette mutation, il refuse carrément de s'y rendre et retourne chez lui à Chichui, la sincérité, toujours. Il reste là 3 années, puis il est nommé à un nouveau poste qui l'oblige à partir pour Changzhou, la rivière des ronces, c'est dans le Changzhou au nord du Grand Lac. Et à l'expiration de son mandat, donc 5 ans plus tard, il retourne à Chichui. Vous voyez, c'est une vie comme ça d'aller-retour, comme souvent l'était la vie des fonctionnaires mandarins. Un an plus tard, il est nommé dans le sud de l'Empire, à Canton, commissaire du thé et du sel du Kwantung. Le 7e mois de 1182, sa mère meurt et Yang Wanli, à nouveau, est contraint de rentrer dans son village natal, Chichui, pour observer les fameuses 3 années de deuil officiel. En 1184, il retourne à Hangzhou, la capitale. Il y est nommé assistant, puis directeur du bureau de l'administration et précepteur du prince héritier. Donc une position quand même très enviable. Et puis, surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à l'estime dont il jouit déjà en tant que mandarin, depuis ce fameux document « Les 1000 considérations », eh bien, s'est jointe une grande réputation de poète. Yang Wanli est désormais l'un des lettrés les plus écoutés, et même le Premier ministre le consulte sur la bonne manière de conduire les affaires. Cependant, attention, il n'occupe pas de poste gouvernemental important, de poste stratégique, car justement, sa sincérité et son impartialité sont finalement assez redoutées. À propos d'un mandarin très influent nommé Ung Mai, il dit un jour, du doigt, il pointe un cerf et l'appelle un cheval. Comme entre ses mains, le deuxième empereur Qin était devenu une marionnette. L'empereur Xiao Tsung se sent visé et fait exiler Yang Wanli, lequel est envoyé à Yongzhou dans le Changxi, où il se rend en 1188 en passant par Chichui. Un an plus tard, le nouvel empereur, Kuang Tsung, monte sur le trône et rappelle Yang Wanli à la cour, il le nomme directeur de la bibliothèque impériale. Ce sera vraiment le poste le plus important que le poète ait occupé. Mais, et là les revers de fortune sont très rapides en Chine à l'époque, quand Xiao Tsung apprend que Yang Wanli est revenu à Hangzhou, il intervient pour qu'il soit à nouveau éloigné. Mais, peu importe, Yang Wanli est envoyé à Chengkang, donc c'est l'actuel Nankin, en tant qu'assistant au commissaire des transports du Changtung. Il remplit son mandat de 3 ans, puis décide de mettre un terme définitif à sa carrière officielle. En 1192, il est âgé de 65 ans, il se retire dans son village natal, il est rappelé à la cour en 1195, mais il décline toute proposition et préfère vivre retiré pour écrire sa poésie. Et Yang Wanli s'éteint en 1206, âgé de 80 ans. Voilà pour les éléments biographiques. Soulignons que Yang Wanli a rassemblé ses propres poèmes en 9 recueils, « Fleuves et lacs »,« La rivière des ronces »,« Retour à l'ouest »,« La mer du sud », »,« Audience au ciel », La retraite taoïste à l'ouest du fleuve, Audience au ciel à nouveau, deuxième partie, à l'est du fleuve, et le dernier, Vivant, retiré. Voilà, vous allez maintenant découvrir la poésie de Yang Wanli, qui est très imprégnée de taoïsme, comme la plupart des poètes de cette époque en Chine, taoïsme et aussi de bouddhisme Chan. Inscrit sur le kiosque des bambous derrière le temple. Je visite toutes les salles vides, brusquement arrive devant une balustrade peinte. La lumière des bambous dans la lune emplit le kiosque froid. Sur le mur, une inscription. Qui a composé ce poème ? Ivre, tenant une lampe vacillante, je lis attentivement. Passant sous un prunier. Non seulement les montagnes serpentent, les eaux aussi sont sinueuses. Les ruisseaux de la montagne sont sans doute magnifiques, mais je n'ai pas le loisir de m'attarder. Le voyageur déjà se hâte, il poursuit le soleil oblique. De quoi se mêlent les corbeaux de retour à me presser ainsi sans cesse ? De retour le soir, je rencontre la pluie. Comme une légère, très légère trace de fumée, les jeunes herbes, le début, tout début de l'ombre de la pluie, le parapluie est le premier à le savoir. Le torrent serpente, les ravins ondulent, je crains de perdre mon chemin. Brusquement, des fleurs de prunier, une ou deux branches. Dans la barque du pêcheur sous la neige, fatigué, je m'endors. J'ai construit un petit studio de la forme d'une barque, aussi l'ai-je appelée la barque du pêcheur sous la neige. Aujourd'hui, j'y étudie. Fatigué, je m'endors. Brusquement, le vent entre dans la pièce, remue dans le vase les fleurs de prunier si parfumées. Réveillé en sursaut, je compose ce poème. Une petite chambre, la fenêtre claire, la porte à moitié fermée. Lisant un livre, je m'endors tout engourdi. Impudentes, les fleurs de prunier me dérangent. Exprès, elles dégagent leur parfum pour briser mon rêve. Traversant à l'embarcadère des 100 familles. Dès qu'on sort de la ville, tout devient paisible. Je traverse le Siang, à mi-chemin croise une barque de pêcheurs. Le pêcheur sans doute devait être pressé de poursuivre le poisson. Sa veste de printemps est à l'envers, sa tête découverte. Dans le jardin, les fleurs sont toutes tombées. Dans les chemins, elles éclosent. Blanche, blanche, rouge, rouge, chacune se montre. Vous voulez savoir ce qu'a d'extraordinaire une promenade aussi matinale? Des 4 directions, des 8 côtés, un parfum sauvage arrive. Premier mois de l'année, Tinghai, nouvelle éclaircie le soir, je sors me promener. Les jeunes eaux printanières sont particulièrement lumineuses. Les jeunes pousses d'herbe sont déjà bien jaunes. Le vent d'est semble vouloir faciliter les choses aux promeneurs. Il a soufflé tous les nuages froids, libérant le soleil du crépuscule. Précipitamment, je descends de la charrette en branchage pour marcher dans l'éclaircie du soir. Sous mes sandales en paille, à chaque pas le bruit du sable. Soudain, j'arrive au bord d'une mare sauvage. Personne. 2 canards flottent, plongent, ouvertement. Journée de printemps. Ivre dans le printemps, ce n'est pas à cause du vin. Dans la campagne, je me promène, sans souci du chemin. Le ciel d'azur, où se termine-t-il ? Un oiseau blanc entre dans le ciel avant d'y disparaître. Passant par le kiosque du pont de l'aide divine, je descends du palanquin et me mets en quête d'une auberge. Je m'étonne de sentir sous mes pieds le bruit froid de l'eau. J'ignore que de l'autre côté des bambous, le long fleuve est tout proche. Soudain, je vois un haut mât qui dépasse d'un pouce. La campagne en 6 mots. Le riz a été repiqué. Il couvre déjà la surface des champs. Les pousses encore espacées jouent dans la lumière de l'eau. Des mouettes blanches volent au-dessus d'une berge lointaine. Des veaux jaunes rentrent au moment où le soleil se couche. Troisième jour du troisième mois, il se met à pleuvoir. Pour chasser la solitude, je compose des poèmes. Le printemps déjà se termine, pourtant le paysage est encore plus resplendissant. Le poète se doit de peindre une scène comme celle-là, les champs lisses gonflés de vert, le blé de village en village, les reflets rouges sur les jeunes eaux, les fleurs de rive en rive. Séjour oisif au début de l'été, après la sieste, je me réveille. Les prunes laissent un goût acide, il ramollit les dents. Les bananiers partagent leur verre avec le store de gaz à la fenêtre. Longue journée, après la sieste, je me réveille désœuvré. Oisif, je regarde les enfants courir après les chatons des saules. L'ombre des pins couvre 2 à 3 pas de mousse. De temps à autre, j'ai envie de lire, me suis trop paresseux pour ouvrir un livre. Pour m'amuser, je prends de l'eau limpide dans mes mains, en arrose les feuilles des bananiers. Les enfants croient que c'est le son de la pluie. Lire un livre. Lire un livre, je ne suis pas là de m'y consacrer. Mais si je m'y consacre trop, ça me fatigue, ça m'étourdit. Je range alors le livre et m'assieds. L'homme et le livre, tous deux, oublient les mots. Quand le goût revient, sans tarder, j'ouvre à nouveau le livre. J'arrive directement à la source des sens sages. Appelez cela illumination. Fondamentalement, il n'y a pas d'illumination. Parler du mystère. Originellement, il n'y a pas de mystère. Quand je rencontre un passage en accord avec mon cœur, un long moment je me réjouis. Cette joie, qui l'a créée? Ce n'est pas moi, ni le ciel non plus. Je ris. Au fond, ça n'a aucune importance. Je pose le livre à côté de l'oreiller. Nuit d'été, recherchant la fraîcheur. La chaleur de cette nuit est semblable à la chaleur de midi. J'ouvre la porte, debout un moment, dans la clarté de la lune. Dans les bambous profonds et les arbres épais, les insectes grésillent. De temps à autre, une légère fraîcheur, mais ce n'est pas le vent. Le deuxième jour du cinquième mois, souffrant de la chaleur. On dit que sur le long fleuve, il n'y a pas de sixième mois. Moi, je dis qu'au sixième mois, il n'y a pas de long fleuve. On est seulement au cinquième mois, c'est déjà comme ça. Comment pourrons-nous donc supporter le sixième mois? La cabine de la jonque mesure 5 pieds de large. C'est dire combien c'est étroit. Le haut, le bas, l'est, l'ouest, le sud et le nord. Une face sur l'eau, 5 faces au soleil. Les rayons du soleil chauffent l'eau, elle est bouillante. Où trouver ailleurs de la fraîcheur? je soulève l'auvent, pas le moindre brin de vent. J'agite un éventail, la sueur coule comme de la soupe. Pour nous humains, nulle part où fuir la chaleur. Les mouches se réfugient chez nous pour fuir la chaleur. Je ne sais pas voler. Je me contente de rester ici sans bouger. Les mouches savent voler. Elles ne s'envolent pas. La nuit, au temple du vieux coteau, avec Wen Yuan Chu, priant pour qu'il pleuve. La chaleur de cet automne est sans précédent ces dernières années. Cette nuit même, la lune ne rafraîchit pas. Les pousses desséchées semblent blâmer le poète paresseux. Elles me poussent à composer un poème pour implorer la pluie. Complainte de la pluie d'automne. J'en ai assez d'entendre goûter les polonias à côté du puits. Je me lève, d'un regard embrasse le vaste flou. Horizontalement s'étend la montagne de l'Est sur 30 lits, comme un paravent émeraude à travers un rideau de perles. Le vieillard, quand la tristesse arrive, se contente de fredonner sans s'arrêter. Je chante et soupire à cause de l'averse d'automne. Celui qui reste chez lui se dit que l'averse d'automne est pénible, mais il ne sait pas que pour le voyageur, la boue est encore plus profonde. Passant la nuit à l'auberge de l'étang au peuplier. Ma vie à parcourir les chemins, quand cela finira-t-il? Dans cette auberge, je suis passé autrefois, à nouveau j'y passe. Mon corps a vieilli, au bord du chemin, pins et cyprès ont maintenant 10 ans. Aujourd'hui majestueux, jadis minuscule, où j'ai dormi la nuit dernière et maintenant de l'autre côté des nuages. Demain, cette nuit, sera la nuit dernière. Un bref instant, déjà du passé. S'il y a du vin, il faudrait être un saint pour ne pas boire. Le soir, écoutant Sia Po Ho faire la lecture à son fils. Quand j'étais jeune, j'adorais les livres. J'en devenais maigre. Chétif, jamais la lampe ne s'éloignait de moi. Aujourd'hui, vieux et paresseux, c'est impossible. Allongé, j'écoute le voisin dans son studio, le soir, faire la lecture. L'embarcadère du village Liou. Une barque légère sur l'autre rive. Impossible de l'appeler. Un petit pont d'une seule planche, comme s'il n'y en avait pas. Plein d'aiguilles de pin sont tombées par terre, comme de fines épingles en or. Au loin, les arbres sont collés au ciel comme des champignons solitaires. Dans la vaste campagne, le vent se lève sous la plante de mes pieds. Les sommets des lointains pics avec mon front se mesurent. Qui sait que le vieux Cheng Chai, seul, vêtu d'une fourrure de chameau, marche face à la pluie. Pluie nocturne. Fin de l'année, Comment ne pas être ému? Mon poème achevé, seul je chante, la lueur froide d'une luciole sur le point de s'effacer. La pluie d'automne au crépuscule est particulièrement abondante. La pauvreté accompagne mes vieux jours, pas de changement. Mais le vin ne saurait s'accommoder de la tristesse. Les insectes grésillent, ils accompagnent les feuilles qui tombent, les uns à rythme, les autres chantent. Pluie nocturne, je ne dors pas. La pluie est rapide, les gouttes dansent. Au son sur les tuiles sèches, on peut les compter. Les gouttes ont brisé mon rêve de fleuve et de lac. Je ferme les yeux, en vain. Les heures sont longues, la force du vin courte. Le sommeil est doux, le sentiment du poète amer. Je n'arrive pas à dormir, soit, mais alors que puis-je donc faire? Voilà, c'était donc un extrait du premier livre de Yang Wangli, Fleuves et lacs. La semaine prochaine, je vous lirai des poèmes extraits de son deuxième livre, La rivière des ronces. D'ici là, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine à l'écoute des programmes de Radio Rentiel. On se retrouve la semaine prochaine sur la terrasse du ciel.